Lausanne. Nancy Ypsilantis.
Et Laurence Di Félix. Bonjour et bienvenue dans ce Babylone fait de bruit et de sons. Vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas. Magie des sons, magie des ondes, la radio vous permet d'imaginer des lieux, des gens, des paysages, sans pour autant vous en montrer les images. Un média particulier s'adresse à un sens un peu particulier, l'ouïe, qui est à l'honneur dans une exposition à découvrir à Genève, Laurence Di Félix, une exposition à laquelle vous êtes allée avec les oreilles en coquillage, comme on dit.
Eh bien oui, donc, je suis allée à la Maison Tavel pour cette exposition. Ça s'appelle L'Oreille en Voyage. C'est une exposition qu'on peut visiter jusqu'à mi-mars dans cette Maison Tavel, plus vieille maison de Genève. C'est une exposition qu'on visite avec un casque sur les oreilles. Vous disiez que j'avais les oreilles grandes ouvertes. On les a un petit peu fermées sur soi. Et cette exposition donne l'occasion de questionner ce sens très abstrait, assez inconscient. Elle permet de réfléchir sur ce qui fait bruit, ce qui fait son aujourd'hui et sur ce patrimoine particulier des sons qui ont été enregistrés. Elle nous permet aussi de nous poser quelques questions sur la prééminence du visuel sur le sens auditif.
On ira donc visiter cette exposition en compagnie du directeur de la Phonothèque nationale, Pio Pellizzari. Et pour discuter des questions que vous nous posez, nous sommes en compagnie de Yann Laville. Bonjour, bienvenue dans Babylone.
Bonjour.
C'est pas une première fois. Vous êtes ethnomusicologue chargé d'enseignement à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel et conservatoire adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Le son, c'est un univers, c'est évident, mais j'ai commencé cette émission en parlant de bruit et de son. Est-ce que très rapidement, on peut faire une distinction entre son, bruit ?
Alors j'ai envie de dire que non, c'est une distinction qui relève en fait de conception de la musique, de l'harmonie. Certains sont persuadés de pouvoir l'expliquer à travers des paramètres acoustiques, donc finalement un son aurait une courbe harmonieuse, arrondie, le bruit aurait une courbe hachurée. Mmh. On se rend compte depuis l'apparition du sampler qu'en fait n'importe quel son peut, n'importe quel bruit peut devenir un son et peut être utilisé dans une production de nature artistique. Et je dirais que dans le langage courant, en fait, les bruits sont utilisés pour désigner en fait tout ce que la personne qui parle n'associe pas spontanément à quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, donc quelque chose qui relèverait de la musique.
Et de l'image qu'elle évoque, Laurence, le son est invisible, il est éphémère. Une fois dans ma phrase prononcée, elle va disparaître.
Oui, et du coup, le son, c'est un véritable défi pour les gens qui veulent le placer dans des musées, dans des expositions. C'est ce que m'a d'abord expliqué Pio Pellizzari, le directeur de la Phonothèque suisse, dans le cadre de cette exposition à la Maison Tavel.
Moi, j'étais toujours confronté au problème « comment rendre visible le son ?» Et il y a 2 ans, la Phonothèque a fêté les 25 ans d'existence. Tout le monde dit « Ah, mais vous faites un CD avec quelques documents historiques que vous avez, etc. » comme ça. Je me suis dit « Bon, faire un CD, c'est pas très original. » Et puis, tout le monde en fait. Moi, j'essaye de trouver une solution pour montrer le son, de montrer le patrimoine sonore qu'on collectionne. Voilà.
Ça, c'est quand même un vrai défi. On est dans un sens invisible. Comment l'avez-vous rendu visible?
Tout le monde a dit « Ah non, non, c'est pas possible, on voit rien. Comment vous voulez rendre visible le son ?» Alors, on a essayé d'organiser le patrimoine sonore en différents thèmes qui correspondent en principe à tous les matériaux qu'on collectionne dans nos archives, ça veut dire du parler, de la recherche, de la musique.
Et tout ça de manière assez ludique, avec des espèces de tonneaux qui isolent les différents lieux. On peut venir y écouter des histoires, on peut y composer là-bas sur une table comme une espèce de DJ des sons de la vie et recomposer une ville, un attentat, un accident, une dramaturgie sonore. Il y a des postes où on peut entendre des archives à proprement dit, avec quelques zooms sur lesquels on reviendra. Et puis tout une mise en scène en forme de Suisse qui nous présente les différents modules d'enregistrement et puis derrière, canton par canton, des archives sonores. Alexandre Fiette, vous êtes responsable de cette Maison Tavel. À part cette exposition temporaire, est-ce qu'il y a des sons dans la Maison Tavel ?
Non, pas d'objet. On est encore dans une muséographie tout à fait traditionnelle, où la présence du son n'est pas incluse.
Une muséographie un peu muette.
C'est-à-dire, il faut s'entendre sur ce qu'est l'objet sonore. L'objet sonore, ça va être simplement ce que l'on va écouter. Ici, les sons qu'on retrouve dans toute maison, qui font notre quotidien, les portes, le passage de collègues, du public. Vous avez aussi tout ce souvenir du son qu'on a pu avoir dans une maison historique comme celle-ci. Donc, on a le son du passé, finalement, dans le ressenti. Et puis, on a également toute la vie actuelle qui est liée autour de notre public et de la vie de la maison.
Cette émission Babylone est réalisée par Patrick Lenoir qui va vous offrir pendant toute cette émission des clins d'œil sonores, à vous de mettre les sous-titres. Yann Laville, vous êtes donc ethnologue et conservateur adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel, au MEN, en particulier responsable du domaine sonore. Est-ce que ça pose des problèmes? C'est un musée qui a eu toujours à cœur de présenter une version sonore dans ses expositions. C'est plus difficile à scénographier?
J'ai envie de répondre que c'est une question de volonté. Donc bien sûr, le son peut être un parasite, une nuisance, il peut gêner la visite. C'est un élément qui peut se diffracter contre les murs, qui peut gêner en fait la compréhension de certains espaces.
Dans lequel on peut se baigner?
Dans lequel on peut se baigner et qu'en fait on peut aussi choisir d'assumer à travers différents médias. Donc je prends un exemple, je prêche pour ma paroisse, hein, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Bruit, qui traitait également de cette problématique, une volonté par exemple de jouer les différents systèmes de diffusion du son en amenant le visiteur à produire du son. Monsieur Pellizzari l'a dit, hein, les visiteurs ne sont pas complètement silencieux. En jouant du son ouvert, en baignant le visiteur dans un environnement sonore, en utilisant le casque, en utilisant des dispositifs de diffusion de type MP3, qui ont chacun leurs avantages, qui ont certainement leurs limitations également, mais qui sont tous intéressants dans le sens où effectivement la diffusion du son n'est pas un phénomène unique.
Le son a souvent un début, une fin, en tout cas quand on est dans le domaine du parler. Ça, c'est quelque chose de compliqué dans le cadre d'une exposition où le temps d'un visiteur A n'est pas le même que le temps du visiteur B.
Alors, le temps n'est jamais le même, la faculté de concentration n'est jamais la même, et effectivement, en particulier quand on essaie de diffuser des sources parlées, c'est extrêmement compliqué que d'intéresser le visiteur, parce que effectivement, il faut entrer dans une problématique à froid, et souvent, c'est assez ingrat à exposer, ça, il faut bien le souligner.
Alors, distinction entre musique et non-musique, et là, on voit que nos oreilles ont évolué. Le jazz, à un moment donné, c'était la musique du diable, le rock, c'était du binaire, poum poum, aucune créativité, tout jazz, rock, bruit, le punk, j'en parle même plus. Or, tout ça, c'est juste rentré dans nos oreilles et c'est ok, c'est de la musique.
Alors, c'est un phénomène qui prend du temps, mais effectivement, le punk est en bonne voie d'institutionnalisation. Il y a eu toute une série d'expositions qui patrimonialisent le génie créatif de cette époque et de cette jeunesse tellement turbulente, mais qui, aux yeux des observateurs contemporains, en fait, passent pour de bons jeunes aujourd'hui, qui ont posé les bonnes questions, qui ont fait les bons choix esthétiques. Et effectivement, on a toujours tendance à vilipender la jeunesse d'aujourd'hui, qui, bien sûr, a mauvais goût, n'a rien compris à rien, se satisfait de musique complètement stupide et binaire, comme vous le disiez. Et j'attends avec impatience les 20 prochaines années pour voir comment en fait tout cela va rentrer dans le giron de la musique.
Du patrimoine immatériel.
Patrimoine, bien entendu.
Vous dites tout ça n'a pas de sens, tout ça est du bruit. En gros, le bruit, c'est quand on n'a pas les codes.
Alors le bruit, c'est quand on n'a pas les codes. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et en fait, on le mesure bien dans certains domaines de musique expérimentale qui font plaisir à certains auditeurs qui ont les clés de lecture, mais qui sont physiquement insupportables pour certains autres. Donc effectivement, il y a toujours un contexte. Et je dirais que c'est peut-être la particularité de l'ethnomusicologie par rapport à la musicologie traditionnelle que de penser la production de phénomènes sonores avant tout comme une interaction sociale. Il s'agit vraiment d'un échange entre des gens qui créent, des gens qui écoutent un contexte contexte médiatique, technologique autour qui crée une situation, et c'est vraiment cette situation qui fait sens, plus que la musique proprement dite.
Pour se rendre compte à quel point on est dans une représentation sociale, lors de votre exposition Bruit au musée d'ethno de Neuchâtel en 2011, dans le catalogue, un article était sorti qui mentionnait le fait qu'au 19e siècle, quand on introduit le moineau aux États-Unis, son son est insupportable parce qu'il n'est pas inclus simplement dans le paysage social, sonore, inconscient des Américains.
Alors c'est un exemple. Un autre qui a une actualité toute particulière, c'est celui des cloches d'église, hein, qui traduit effectivement la christianisation de l'Europe. Hein. Effectivement, ces cloches qui rythment
le
la
son
vie,
des vaches,
qui annoncent quand
vaches.
Est-ce qu'il faut aller manger, quand est-ce qu'il faut aller se coucher. Le son des vaches, bien entendu, c'est un peu moins religieux comme exemple.
Oui, enfin, peut-être pour la Suisse, elle est tout autant.
Et effectivement, des débats en fait aujourd'hui où les gens s'accommodent très bien du bruit des avions, du bruit des trains, du bruit des bus, du bruit des autoradios, du bruit des casques qui bavent dans les transports publics, mais qui effectivement ne supportent plus le son des cloches le dimanche matin et qui font des demandes pour que en fait ils soient simplement mis sous silence.
Donc on va vers un monde de plus en plus silencieux.
Au contraire, j'ai l'impression qu'en fait on est baigné de bruit en permanence, mais effectivement l'oreille humaine et l'esprit humain a cette capacité que de faire le tri et de ne pas faire attention à certains des sons qui l'entourent.
Est-ce qu'on arrive à se représenter quel était l'univers sonore de nos grands-parents ? On est confronté tout le temps aux images de l'ancien temps. On sait comment les gens étaient habillés, quelles étaient les coiffures des petites filles dans les années 40. C'est beaucoup plus difficile de se représenter ce qu'a pu être un univers sonore. Vous dites qu'il y a beaucoup de bruit, mais l'industrie fait peut-être un peu moins de bruit qu'il y a 50 ans. Les voitures font moins de bruit, les moteurs font moins de bruit.
Alors j'ai envie de dire que le passé est toujours utilisé à dessein, en fonction d'impératifs du présent, pour critiquer, se situer, mettre en perspective, construire l'avenir. Effectivement, quel était l'environnement sonore il y a 50 ans ? Dans les campagnes, peut-être plus silencieux qu'aujourd'hui. Dans les villes, vous l'avez rappelé, hein, l'industrie faisait un bruit invraisemblable, mais elle est devenue beaucoup plus silencieuse. Mais en fait, d'autres bruits ont pris leur place, donc beaucoup plus de transports, beaucoup plus de voitures, et puis en fait beaucoup plus de sources mobiles avec des gens qui s'isolent dans leur petite bulle de bruit. On a toujours l'impression qu'en fait, on a tendance à présenter ces systèmes comme parfaitement efficaces. Moi, je suis toujours surpris en fait de voir à quel point ces systèmes bavent malgré tout. Quand vous prenez le train régulièrement, en fait, vous êtes confronté à la musique des gens en face
les
de vous.
Les petites basses qui font...
Et oui, vous voyez l'amateur de classique, l'amateur de reggae, l'amateur de hip-hop. Et souvent, ça perturbe votre lecture. Parfois, vous êtes surpris aussi.
Ça pollue notre environnement sonore. À quel moment est-ce que le son ou le bruit devient polluant ?
C'est une question d'appréciation personnelle.
Mais donc, légalement ?
Légalement, il y a un comptage de décibels qui fait que, au-delà d'une certaine puissance sonore, en fait, c'est pas que c'est interdit, c'est jugé dangereux pour la santé, dangereux pour l'ouïe. Et ensuite, il y a des heures qui permettent, dans certains endroits, de diffuser de la musique fort. Et à d'autres moments, en fait, on prétend que les gens ont droit à du silence pour se reposer. Donc, en fait, il y a tout un appareil légal qui régente ce genre de diffusion sonore.
Alors, certains de ces sons, vous l'évoquiez, Laurence Di Félix, font partie de notre mémoire, de notre patrimoine, et c'est le rôle de la Phonothèque nationale de conserver, choisir, trier ces sons.
Surtout conserver, on va l'entendre, cette institution, la Phonothèque nationale, elle existe depuis 1984, et j'ai demandé à son directeur Pio Pellizzari simplement de nous dire ce que c'est une phonothèque.
Nous sommes une fondation avec un mandat de la Confédération de collectionner le patrimoine sonore suisse. Donc ça veut dire tous les sons parler aux musiques qui ont un lien avec notre pays, notre culture, notre société. On connaît par contre pas le dépôt légal, ni la bibliothèque, ni la cinémathèque, mais pour le reste, c'est exactement ça. Donc nous, on s'occupe surtout du monde sonore, du patrimoine sonore.
Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est combien d'heures ? Ou je ne sais pas quel est le... Les bibliothèques, on les compte en kilomètres de rayonnage. Alors, pour le son, est-ce que c'est des heures de son ?
Alors, heures de son, c'est un peu difficile à dire, mais on a des estimations. Donc, on a à peu près maintenant un demi-million de supports sonores, de toutes sortes, du cylindre, du premier qui a été produit, jusqu'à des fichiers. On reçoit aussi des fichiers aujourd'hui. On a à peu près 5 millions de titres différents. Ça veut dire vraiment des pièces sonores. Ça peut être de la musique, ça peut être un enregistrement d'un interview, un discours, toutes sortes. Voilà. Mais en heure, on peut dire c'est peut-être je veux pas me hasarder, parce que si vous prenez une bande magnétique, vous pouvez mettre une heure dessus, mais on a eu la grande surprise, par exemple, on a numérisé les enregistrements du Parlement constitutif du canton du Jura. Et on a une bande, bon, on peut dire sur une grande bande, on peut mettre 2 heures, 4 heures, etc., comme ça. Mais tenez-vous bien, on a eu 48 heures par bande. Donc, dire comme ça, je sais pas, on a 500 000 de bandes à 2 heures par bande, donc ça, on a 1 000 000 d'heures, c'est pas juste.
Tout à l'heure, vous nous disiez, Pio Pelizzari, qu'il n'y a pas de dépôt légal pour le son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collections se forment à bien plaire?
Pas tout à fait. Bon, il n'y a pas de dépôt légal non plus pour le livre, au niveau national. Je pense, un argument, c'est simplement historique, ça veut dire que la culture, c'est affaire des cantons. Et publier de la musique, des livres, etc., ça fait partie des cultures, donc c'est au canton de voir comment faire. C'est clair, au niveau du son, on ne peut pas faire 26 phonothèques, ça serait trop cher et ça ne fait pas de sens. Par contre, le mandat prévoit de collectionner tout ce qui est possible qui a un lien avec la Suisse. Alors j'ai dans tous les domaines, dans la musique du jazz, du rock, du classique, mais aussi du parler, des spécialistes qui peu à peu se sont fait un réseau et qui collectionnent, qui vont vers les éditeurs, qui vont vers les chercheurs, qui demandent les documents, donc on doit les demander gratuitement. C'est une estimation qu'on couvre entre 80 et 90% de ce qui se fait en Suisse.
Au niveau musique commerciale
Au niveau musique commerciale, ça varie un petit peu des genres, ça dépend un peu où. Par exemple, beaucoup de musique classique, c'est fait à l'étranger, mais pas chez nous. Là, c'est surtout les interprètes suisses qui sont intéressants parce que les compositeurs suisses sont malheureusement peu joués. La musique populaire, ça se fait en Suisse, ça, c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être là où on arrive facilement à 90%, peut-être même un peu plus, de tout ce qui est produit. Après, on a des liens avec les ethnologues, avec des instituts d'université de recherche, etc., comme ça, qui peu à peu ont compris, qui peuvent déposer le matériel chez nous, que nous, chez nous il est traité, etc., comme ça, et qu'il, via la numérisation qu'on fait, ça devient accessible de nouveau à tous les chercheurs.
Cette exposition tente de mettre en évidence le patrimoine sonore de la Suisse. Ça veut dire réfléchir à ce qui fait notre identité quand on parle de patrimoine. Qu'est-ce qui est la patte, l'identité sonore de la Suisse?
Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est vraiment que la Phonothèque nationale collectionne le patrimoine de toute la Suisse. Et on a choisi de présenter pour chaque canton au moins 2 documents. En général, on a essayé de prendre une pièce musicale typique, donc c'est beaucoup de musique populaire, bien sûr, de la région, et si on avait un document parlé, ou un récit ou quelque chose, dans la langue qui est typique de l'accent, de dialecte de la région. On a dû parler de tous les cantons, mais ils ne sont pas toujours très typiques, donc c'est difficile à les choisir. Mais là, on était sûr, ça c'est du vrai bernois, ça c'est du vrai dialecte de Glarousse, par exemple, on l'a mis. Voilà. Il y a pour chacun quelque chose à découvrir. C'est rigolo quand je vois les gens. Donc, ils vont d'abord tout de suite sur leur propre canton. Ça, c'est la première chose. Et puis après, peut-être d'autres cantons qu'ils connaissent ou ils ont de la parenté, etc. Et puis après, c'est par curiosité éventuellement qu'on écoute les autres.
C'est un staccato qui brûle. Und so Zeugs. Und wir haben Tatschrecken gelaufen und Quergriff und Zeugs und Sachen gemacht.
Ça met quand même le doigt sur une des difficultés propres à notre pays, ce que vous dites, hein, on va d'abord vers son propre canton, après vers les cantons de notre région linguistique, et seuls les gens très passionnés vont aller écouter un peu ce qui se passe ailleurs. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans un autre poste dont on n'a pas parlé à l'entrée de l'exposition. Vous proposez de faire correspondre une voix qu'on entend et puis une photo sur laquelle on doit appuyer. Et puis évidemment, comme visiteur, on se rend compte qu'on connaît très mal les personnalités, les voix des autres régions linguistiques.
Alors ça, c'était aussi un but de faire montrer à tout public de toute la Suisse tout le patrimoine qu'on a, aussi celui qu'on ne connaît pas. Pour montrer, il n'y a pas que la musique appenzelloise à Appenzell, mais il y a autre chose ailleurs qui fait partie de notre société actuelle, de notre Suisse, de notre patrimoine.
Cela dit, le son est quand même plus difficile d'accès que l'image. Par exemple, on peut se reconnaître dans le pont de Lucerne quand on est genevois. Quand on se branche sur le canton de Lucerne pour entendre une interview en lucernois, on se sent tout de suite un petit peu plus lointain.
Ça, c'est vrai, c'est clair, il y a l'handicap de la langue. Mais je trouve que c'est autant plus enrichissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la photo du pont de Lucerne que tous les Japonais, tous les Chinois, ils photographient aussi. Mais moi, comme Suisse, quand je suis à Lucerne, il y a ça. Mais ils ont leur propre musique, ils ont leur propre langue, ils ont leur dialecte. On veut aussi faire découvrir une partie de notre patrimoine, même si on connaît seulement la partie visuelle, par exemple.
Ici, face à nous, une borne spécifique à Genève. Il y a une dizaine de sons. Qu'est-ce qui vous a dit, là, on est au cœur de ce qui est typiquement genevois? C'est les accents, c'est le sens, c'est des moments clés dont tout le monde se rappelle. Qu'est-ce qui pousse à ce choix-là?
Je dois dire, le choix, c'est très difficile, chaque fois. D'abord, c'est clair, nous, on regarde qu'est-ce qu'on a qui concerne Genève. Dans tous les domaines, dans la musique, dans le parler, etc., comme ça. Puis après, on s'est posé la question, Genève, c'est quoi pour nous qui ne sommes pas à Genève? Alors, Genève, c'est connu, bon, c'est francophone, c'est international. Il y a l'UNO, il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres choses. Il y a l'OSR, un orchestre très célèbre quand même. Il y a une histoire de jazz qu'on connaît parce qu'on a différentes collections, etc. C'est le résultat des longues discussions, beaucoup d'écoute. Et puis, il y a un critère quand même, on essaie d'éviter les clichés. C'est-à-dire, on ne veut pas montrer ce que tout le monde connaît de toute façon. Donc, la grande chanson de l'escalade, on essaie de ne pas la mettre.
Elle y est quand même là-bas.
Elle est quand même là-bas, je sais. On essaie aussi de montrer des choses que les gens peuvent découvrir, une nouveauté, mais qui fait partie de leur vie quotidienne, qu'ils ne sont peut-être même pas rendus compte.
Pour les connaisseurs Coleman Hawkins, nous sommes en 1939 au club MacMahon à Genève, musique du diable. Cinquante ans plus tard, extrait de la bande originale d'un film où il y a des images, mais le son est tellement bon qu'on en fait un disque. Step Across the Border, c'est Fred Frith. Et là, ce qu'on entend et ce qu'on voit à l'image, cette rythmique, chrong, 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 c'est une machine à fabriquer les bonbons. C'est elle qui fait la rythmique et ses voix sont captées à la radio. Thank you. Candy Machine, extrait de la bande originale de Step Across the Border. C'était dans les années 80. Fred Frith, grand voyageur qui se déplace et qui collecte des sons réels. Aujourd'hui, Yann Laville, dans ce bruit, dans ces bruits, dans cette fureur, on sample. Les choses n'ont pas véritablement changé. Seul l'objet de captation lui a changé. Et on sample même des bruits.
Bien entendu, mais l'idée n'est pas foncièrement nouvelle. Donc, je me permets de rappeler que Luigi Russolo, au début du XXe siècle, avait déjà cette ambition que de composer des symphonies pour machines industrielles, pour composer une nouvelle musique en phase avec son époque, et qu'il était obligé, à défaut des technologies appropriées, d'inventer de nouveaux instruments, des glouglouteurs, des froufrouteurs. Donc, il y avait toute une série de mots comme ça, assez bigarrés, mais qui permettaient de produire ou de reproduire, en fait, des sons qui rappelaient ceux des usines.
On parle, Yann Laville, du bruit, du son. On évoquait tout à l'heure ces lois qui essayent de cadrer ce qui est bruit, combien de décibels, à quelle heure. Le bruit, c'est aussi un enjeu de pouvoir. C'est le père de famille qui décide que c'est les enfants qui vont se taire. Bruit et silence, ça s'inscrit dans une société hiérarchique.
Bien entendu, donc ça fait parfaitement partie de la hiérarchie sociale. On évoquait l'église, donc en fait les cloches sonnaient à l'époque où l'église était importante. C'est aujourd'hui l'État qui finalement impose certains bruits, voire même dans une société, je dirais, qui a basculé vers le registre du commercial. C'est peut-être surtout le bruit des entreprises et du commerce, de la publicité dans lequel on baigne principalement à l'heure actuelle.
Si vous deviez faire un portrait sonore de la ville de Neuchâtel, quels sont, choisiriez-vous ?
Alors c'est une bonne question, on a essayé de faire l'exercice avec des classes, puisqu'en fait on s'amuse beaucoup à faire des soundscapes pour voir quelles seraient les particularités.
Des paysages sonores.
Des paysages sonores. Je dois dire que personnellement, je n'ai jamais été très convaincu par ce genre de démarche. Donc on va enregistrer le lac, on va enregistrer des voitures, on va enregistrer des gens qui parlent à la place Purie, on va enregistrer des cloches d'église qui sonnent. Mais j'ai souvent l'impression que, mis à part quand le culturel fait irruption dans le son, c'est-à-dire quand vous entendez les gens parler, justement avec un accent, avec une langue particulière, quand vous entendez des sons articulés, donc vraiment de la musique, de la production sonore voulue, là, vous commencez à vous faire des représentations. Tant qu'il s'agit de bruit du quotidien, je répète à envie que les moteurs de Toyota sonnent de la même manière à Neuchâtel qu'à Tombouctou.
C'est pas une question d'air.
Non.
On le disait tout à l'heure, Yann Laville, vous avez monté en 2011 au musée d'Ethno une expo qui s'appelait Bruit. Elle était le premier volet de trois expositions autour de la question du patrimoine immatériel. C'est une notion qu'a proposée l'UNESCO dans une ambition de conserver ce patrimoine immatériel. On arrive à dresser des contours. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas que les sons, mais c'est aussi les sons.
Alors c'est aussi les sons, c'est un gros volet, mais effectivement qui comprend bien d'autres choses, donc pratique, histoire, tradition de nature orale. On a choisi au musée d'ethnographie en fait d'aborder cette question de ce patrimoine qui était difficile à circonscrire, justement à travers les moyens qui permettent de l'approcher, donc principalement la captation sonore, la captation visuelle, et puis en fait le troisième volet qui va ouvrir ce printemps autour d'en fait ce qu'on choisit de ne pas dire, de ne pas verbaliser, donc c'est-à-dire le secret. Effectivement, les règles implicites que tout le monde connaît, mais que personne n'énonce et qui structurent en fait une grande partie de la vie en société.
Quand l'UNESCO décide de créer un fonds du patrimoine immatériel, c'est un peu en réaction à ce qu'on appelle traditionnellement le patrimoine, qui est très inscrit et ancré dans du solide, dans des bâtiments, dans des objets, et en disant, mais finalement, il n'y a que les sociétés occidentales qui s'inscrivent aussi fortement dans le matériel. Si on veut ouvrir de manière plus générale la notion de patrimoine, on est obligé de passer à autre chose.
Alors, il y avait à la base une sorte de volonté de mettre en avant le patrimoine des sociétés non occidentales, avec toujours cette idée un peu naïve et un peu paternaliste que chez nous, effectivement, on a du matériel qui est conservé dans des musées, qui est conservé dans des bâtiments, et qu'ailleurs, la culture s'exprime de manière différente.
C'est l'oralité.
C'est l'oralité, voilà. Typiquement, à propos de l'Afrique. On se rend compte que, effectivement, ce grand partage a quelque chose de complètement arbitraire. Il y a du matériel ailleurs, naturellement. Il y a matériel chez nous. Et donc, en fait, beaucoup d'associations sont montées au créneau en profitant de l'aubaine pour essayer de faire valoir leur patrimoine. Et en fait, le grand paradoxe, c'est que malgré tout, à partir du moment où on entre dans une logique de patrimoine, à plus forte raison à propos du son, on recommence à produire des objets. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un enregistrement, qu'il s'agisse de rouleaux de cire, de disques, de bandes magnétiques ou de fichiers MP3, il faut quand même bien les stocker sur quelque chose. Donc, vous avez des disques durs. Et en fait, tous ces machins physiques, en fait, supposent de l'entretien et sont souvent extrêmement compliqués à garantir, en fait, en termes de pérennité. Il faut constamment les virer d'un support ou d'un système technique sur un autre.
Alors, on va retourner à l'exposition L'oreille en voyage pour parler de ces machins à son.
Exactement, parce que c'est un peu le deuxième volet de cette exposition de la Phonothèque nationale qui réfléchit sur les différentes techniques d'enregistrement, sur ces différents supports que vous venez d'énoncer, et qui commence par réfléchir à ce qu'est un son et à la qualité de ce qu'on se met aujourd'hui dans les oreilles, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et pour comprendre tout cela, il faut commencer par un petit peu d'anatomie.
Les gens y oublient très vite, aujourd'hui dans l'ère numérique, où tout est numérique, où tout est en format de fichier, que nos sens, nos propres sens, ils sont tous analogiques. Donc notre oreille fonctionne analogiquement, ça veut dire les ondes sonores sont transportées via l'air, donc la compression d'air, comme ça qui arrive sur notre tympan, et puis via l'oreille interne, après ça arrive dans notre cerveau, où le son par les activités du cerveau, après il est reconnu, transformé. Et cette borne-là, en double sens, c'est d'une part expliquer comment ça fonctionne, l'oreille, analogiquement, et d'autre part aussi de voir un lien avec la qualité d'écoute d'aujourd'hui. Beaucoup de monde aujourd'hui, surtout les jeunes, justement avec des petits boutons dans les oreilles, ils écoutent la musique. Le format qu'ils écoutent, c'est un fichier comprimé, très fortement. Donc, quelquefois, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on entend encore? Vu que ce fichier est très comprimé, il doit être transformé en analogique pour qu'on peut l'entendre avec notre oreille. Et cette transformation, chaque transformation est toujours liée avec une certaine perte, surtout de qualité. Ici, on essaie d'illustrer un principe. La qualité de la musique qu'on perd seulement parce que dans une petite boîte, j'aimerais amener avec moi plus que 1000 titres, par exemple.
Et des orchestres de 60 musiciens.
Et des orchestres de 60 ou plus, oui, exactement. Et c'est en principe un module qui sort d'une expérience que nous on fait presque toutes les semaines parce qu'on a un programme pour les écoles qui nous visitent, où on présente les différentes qualités de son, on explique comment ça fonctionne, et on découvre que les élèves eux-mêmes, ils redécouvrent leur propre musique qu'ils sont en train d'écouter, mais ils ont toujours entendu seulement en MP3 ou je sais pas quoi, dans les petits boutons dans l'oreille. Et tout d'un coup, quand ils sont, je dis pas une installation de luxe, mais une bonne installation avec un fichier de haute qualité, par exemple, ça sonne complètement différent, et ils se rendent compte, mais je rate la moitié de du plaisir.
Cette borne, elle nous permet d'expérimenter en nous faisant écouter des sons à tant de hertz avec un casque ou avec des petits haut-parleurs d'ordinateur qui sont en fait souvent utilisés pour écouter la musique. On voit que les graves, par exemple, on ne les entend pas du tout.
Alors les graves, on n'entend pas du tout, mais très souvent aussi les aigus. Donc on a juste la bande moyenne que ces appareils sont en grade de faire passer et le reste, on perd complètement. Alors que notre oreille a quand même une bande assez large et assez fine, il faut l'utiliser. On sait très bien qu'il y a d'autres espèces, surtout dans les animaux, qui ont une oreille beaucoup plus fine. Mais quand même, essayons d'utiliser au moins ce qu'on a déjà à disposition. Voilà.
Ici, on a une vitrine, on peut peut-être s'approcher, qui nous montre les différentes manières qu'on a eues d'enregistrer. De quand datent les premières tentatives de fixer du son hautement abstrait sur des supports.
La première tentation de fixer du son, c'est un français, autour de 1850 et quelque chose, je sais pas la date exactement. Il a réussi à fixer, à rendre visibles les ondes sur un papier noirci, comme ça, puis il y a une aiguille qui passait par-dessus. Par contre, il n'était pas encore en grade de le reproduire. Ça, c'est dû à Edison qui a gravé le son sur un cylindre qu'on pouvait après réécouter. Et ça, c'est à peu près 25-30 ans après. Justement, le cylindre le plus vieux.
Oui, il est là. Alors, c'est pas comme un cylindre d'orgue de Barbarie, hein?
Non. Alors, les cylindres d'orgue de Barbarie ont l'information pour faire produire un son. Alors que les supports sonores, le son, il est gravé dedans. Voilà, ça, c'est un cylindre. Puis, on a mis quelques exemples qui sont un peu spécifiques dans le sens... nos aïeux ou nos parents, grands-parents, ils les ont connus. Les jeunes ne connaissent plus du tout. Mais c'est aussi pour montrer un petit peu l'évolution. Donc, on est jusqu'au mini-disque qui est déjà obsolète aussi. Mais par exemple, les cartes sonores.
Carte postale avec une vue du lac et puis des sillons qu'on pouvait mettre comme ça sur son...
Sur le tourne-disque. C'était très à la mode dans les années 50-60. On a toute une série de ces images ou de ces cartes, surtout des lieux touristiques, donc de Genève, de Neuchâtel, de Saint-Maurice, de Davos, enfin là où on a essayé d'attirer les touristes.
Face à tous ces supports, que fait une institution comme la Phonothèque nationale? C'est des questions qu'on se pose évidemment aussi à la radio qui existe depuis les années 30. Dans les archives de la radio, on a autant des disques que des disques en cire, que des bandes. Vous êtes dans un processus de numérisation ou de conservation?
On a exactement ces deux chemins. Un, c'est la conservation de l'original, donc dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, par sécurité, c'est la numérisation. Aujourd'hui, dans le son, la seule possibilité, c'est la numérisation. Il n'y a plus de support physique assez stable pour dire, on transmet ça sur un autre support et puis on le garde. Donc c'est vraiment la numérisation actuellement la seule possibilité. La numérisation a le grand avantage de la distribution facilitée. On peut changer les formats, on peut distribuer online. L'usage est vraiment beaucoup facilité, soit pour nous comme institution, mais aussi pour l'usager lui-même.
Et vos liens avec les radios?
Alors, la radio, le lien, c'est dès le début parce que nous sommes une fondation et la direction générale de la SSR est dans la fondation chez nous. Donc, on travaille dès le début, toujours avec les archives, surtout de la radio. On a eu un très grand projet commun. C'est de sauvegarder les premiers enregistrements de la radio, ou des radios, il faut dire, qui étaient encore des gravures directes sur des disques acétate. Donc, avant de l'introduction de la bande. Et d'ailleurs, on a mis une photo ici, un exemple.
Mm-hmm. D'un disque qui est bien abîmé, hein?
Alors, ça, voilà, c'est Radio Lausanne. C'est un de ces disques acétate gravés direct. Alors, ils ont le problème qu'ils vieillissent mal. Ils vieillissent mal pour deux raisons. D'abord parce qu'avant, on n'avait pas un concept d'archivage, on les a mis n'importe où, ils étaient dans une armoire, etc. comme ça. Donc le climat variait beaucoup. Et ça fait que la laque, cette laque acétate, elle se retire et craquele. Ça fait comme une toile d'araignée, quelquefois c'est...
Oui. Un désert qui a séché. Ouais.
Voilà. Alors ces disques, normalement, ils sont tous uniques, parce que c'est des émissions radio, c'est une fois, puis c'est fini.
Donc enregistré pendant le direct.
C'était enregistré en direct, et puis on l'a enregistré parce qu'on voulait documenter quelque chose, mais surtout pour le passer une deuxième fois, peut-être une deuxième fois, et puis après on l'a mis de côté. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des documents qui sont exceptionnels, qui sont sur ces disques, mais un disque comme celui-là, vous ne pouvez plus l'écouter. Parce que dès que vous mettez votre aiguille, il y a tout qui part. Là, on était précurseurs, c'est-à-dire, on a dit, il faut absolument sauver ces disques parce qu'on a à peu près 130 000 des années 30, donc de la fondation de la radio jusqu'aux années 50-55. Donc, on a eu l'idée de photographier le disque et d'écouter la photo.
Comment on fait pour écouter une photo?
Ça veut dire qu'on retourne sur l'image, on peut aussi écouter l'image. C'est une photo de très haute résolution, on ne la voit pas ici. On numérise le sillon, donc le son, les ondes. Puis après, on a développé un software, un programme qui transforme le mouvement du son en son réel.
C'est un travail de près de conservation incroyable.
Oui, on a reçu un prix international pour ça. C'est le seul système qui fonctionne au monde.
Pio Pellizzari, on voit une évolution de notre univers, médiatique en particulier, vers toujours plus d'images. Et puis le son comme un apport à l'image, mais qui souvent s'appuie quand même sur des images. On le voit par exemple dans tout ce qui concerne le multimédia, où on est directement attiré par l'image, surtout si elle est en mouvement. Et puis les documents sonores intéressent un petit peu moins. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour la phonothèque?
Nous avons aujourd'hui une société qui est très visuelle, qui est très imagée, c'est l'image qui domine. Et le son passe au second plan. Mais expérience faite, et tout le monde peut le faire, dès qu'on enlève le son, l'image ne dit presque plus rien. Donc c'est comme dans le subconscient, on a absolument besoin du son pour pouvoir comprendre l'image, pour qu'elle nous parle. Donc c'est un mariage qui est très 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 lié aujourd'hui. Je pense aujourd'hui, on ne peut plus se passer seulement de l'un ou seulement de l'autre. Bien que, par exemple, écouter un bon concert à la radio ou bien avec un disque, on n'a pas du tout besoin d'une image. Alors, de regarder un bon film sans la musique, c'est très difficile, voire pas possible.
Par exemple, si on prend le cas des ethnologues qui sont allés sillonner le Valais ou le Tessin pour recueillir des patois, ils vous les ont livrés à la Phonothèque nationale pour que vous les gardiez comme patrimoine. Aujourd'hui, ces mêmes ethnologues vont sillonner des vallées, mais ils ont la caméra sur l'épaule. Ça veut dire qu'ils ne vous transmettent plus leurs documents? À qui les donnent-ils?
Non, alors, ils nous filent quand même les documents. On a énormément de documents sonores avec de l'image, soit la photo, soit de plus en plus de vidéos. Et c'est un problème, c'est juste parce que la vidéo connaît énormément de différents formats, connaît énormément de différentes manières de l'utiliser, mais on a de plus en plus de documents avec de l'image et nous sommes confrontés à ce problème de sauvegarde. On a certaines techniques pour les sauvegarder, mais c'est un problème mondial, il faut le dire. C'est pas seulement notre problème, c'est toutes les phonothèques qui ont ce problème. Et d'ailleurs, dans tous les pays autour de nous, les phonothèques ont été transformées en ce qu'on dit médiathèque parce qu'ils doivent s'occuper aussi du vidéo qui va avec.
Et le jour je crie, on peut pas le voir, tu es un moi.
Voilà, on a tout de suite les images. C'était le patois d'Evolène. Merci à Pio Pellizzari, directeur de la Phonothèque nationale, de nous avoir parlé de cette belle exposition « L'oreille en voyage » à découvrir à la Maison Tavel à Genève jusqu'au mois de mars. Yann Laville, cette question de la place du son et des images et finalement le son qui doit forcément s'accompagner d'un objet, finalement c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort pas.
Alors, si vous me permettez de réagir à ce qu'a dit Monsieur Pellizzari, effectivement, ce problème, entre guillemets, qu'ont les archives audio aujourd'hui confrontées à l'image, il est vraiment lié à une partition, j'ai envie de dire technique, et dépassée du son. En fait, on avait des archives sonores parce qu'en fait, on pouvait pas faire d'image. Mais en fait, dans une perspective scientifique, tous les exemples que je connais, en fait, montrent que les chercheurs ont toujours cherché à cumuler ces supports pour concaténer de l'information. Donc, les gens partaient sur le terrain, en Afrique, dans les vallées reculées des Alpes, avec des enregistreurs sonores, mais dans la mesure du possible, avec aussi un appareil photo, une caméra. Et effectivement, ça part de cette idée que finalement, ce qui intéresse, c'est pas uniquement le son, c'est en fait le social autour du son. Et qu'en fait, l'image montre aussi des éléments importants, comment les gens sont habillés, comment ils parlent, comment ils réagissent, les expressions du visage, montre aussi ce qui se passe un peu autour de la musique, la danse, les échanges, la drague, l'enivrement. Et que finalement, donc c'est pas simplement pour capter du son qu'on a fait des missions de capture sonore, mais en fait pour essayer d'approcher quelque chose qui relève plutôt de la vie en société. Donc en fait, de voir ces supports se cumuler, est-ce un bien, est-ce un mal? Je dirais qu'en fait, les techniques sont pas plus difficiles à utiliser. Les problèmes de sauvegarde ont toujours existé. Et en fait, je dirais les scientifiques fonctionnent avec leur époque et ont basculé effectivement dans un paradigme qui est plutôt celui de l'audiovisuel en cumulant ces deux notions.
Mais vous parlez des scientifiques. Or, la production sonore n'est pas faite uniquement pour les scientifiques. Il y a tout un langage, il y a une grande grammaire qu'on connaît bien à la radio. Quand on n'a pas l'image, on va compenser. On va travailler avec l'évocation, on va travailler avec le son qui évoque. Est-ce qu'on risque pas de perdre ce langage propre au son solitaire?
Alors, il y a une poétique de la radio, bien sûr. En même temps, si vous prenez le cadre de la musique, c'est aussi assez fallacieux de dire qu'il n'y a rien à voir. Vous allez voir un orchestre classique jouer, vous vous concentrez aussi sur le musicien. Enfin, il y a une partie visuelle. Le concert de rock, c'est exactement la même chose. Il y a un son et lumière, il y a des gens qui se déhanchent, il y a une foule en délire.
Des odeurs, des choses,
odeurs,
des températures.
Donc, la radio est un média sans doute particulier, mais en fait, il y a aussi cette propriété que de s'inscrire dans l'environnement de l'auditeur. Et effectivement, les gens ont des approches du son qui sont sans doute aussi assez variées. Quand vous travaillez en écoutant Couleur 3, il y a des moments où vous êtes concentré sur la musique, d'autres moments où vous oubliez complètement ce que les gens racontent, vous répondez au téléphone, il y a des gens qui viennent vous parler. Donc c'est aussi un média extrêmement interactif.
Avec un acteur principal qui est l'imaginaire.
Qui est l'imaginaire, mais peut-être qu'on surinvestit trop cet imaginaire, on n'est pas en interprétation permanente. Donc il y a aussi cette possibilité de tourner le switch dans sa tête et de comprendre l'émission comme un bruit de fond auquel on fait relativement peu attention.
Un des phénomènes qui est très présent aujourd'hui, c'est celui du casque. Tous ces gens qui sont dans l'univers commun, en société, et chacun replié sur leurs propres oreilles avec leur propre univers sonore. Comment est-ce que ces gens-là s'inscrivent dans la réalité?
C'est un sujet qui a été traité par des psychanalystes depuis l'arrivée du baladeur. On était persuadé que ça allait désocialiser les jeunes, les rendre fous et psychopathes. Alors, j'ai pas envie de jouer au moraliste. Moi, j'ai aussi un baladeur MP3 et par moments, je l'apprécie énormément. J'ai envie de répéter que c'est pas toujours, en fait, une pratique solitaire. Donc, souvent, les gens entendent, le casque bave et ça amène aussi à échanger ou à se fâcher avec son voisin dans le train. Accessoirement, dans de nombreuses sociétés extra-européennes, on se rend compte aussi que le fait d'emporter sa musique en voyage est quelque chose d'assez important. Et il y a cet instrument africain qui s'appelle la sanza, donc une sorte de planchette en bois avec des languettes en métal. C'est typiquement une sorte de proto-baladeur pour, effectivement, quand on voyage sur de longues distances, qu'on s'ennuie, qu'on est tout seul au milieu de rien, se jouer un peu de musique, se faire un fond sonore pour agrémenter l'effort et puis passer le temps de manière un peu plus agréable.
Yann Laville, vous dites que le son des écouteurs bave, déjà le vocabulaire est péjoratif.
Il est péjoratif, mais en fait, il est d'usage courant. Enfin, il me semble que c'est une expression quasiment consacrée.
Oui, mais dès qu'on prend l'image de ce son, on voit que c'est pas un qualificatif noble.
Alors si effectivement
il ne teinte pas, il ne colore pas, il bave.
Une insulte à notre suissitude. Donc effectivement, si on veut un monde propre en ordre, effectivement, on appelle ça des bavures sonores ou des pollutions sonores. On pourrait essayer de trouver un terme peut-être un peu plus positif.
Il y a forcément, lorsqu'on trie une perte, qui c'est qui est responsable de ces choix, par exemple au Maine?
Alors, il y a des choix scientifiques, il y a des choix politiques, et en fait, en Suisse, tout fonctionne sur le principe de la subsidiarité. Donc, en fait, vous avez beaucoup d'archives sonores, par exemple, celles de notre musée, qui travaillons en collaboration avec la Phonothèque nationale. Donc, il y a des archives sonores qui sont jugées d'intérêt particulier par rapport à des missions, par rapport à des travaux, par rapport à des expositions. Et puis, il y a une espèce de décantement qui s'opère à travers le temps, et certaines archives, en fait, ont un cursus honorum qui les amène à être peut-être déposées dans des archives cantonales et ensuite dans des archives fédérales.
On n'a jamais produit autant. Tout le monde produit tous les jours des photos, des sons, des films. C'est quand même un souci pour les musées, ça?
Alors pour les musées, oui, mais en fait, sans doute pour la radio, encore pire que pour les musées. Vous êtes les principaux producteurs d'archives sonores. Elles sont extrêmement difficiles à cataloguer. Et peut-être qu'en fait, c'est aussi important de rappeler que dans tout processus de tri, dans tout processus de patrimonialisation, il y a aussi un processus d'oubli. Donc on ne peut pas dupliquer le monde, ce serait horrible, on serait envahi par le passé. Donc il y a des gens qui, chacun à leur échelle, ont la responsabilité d'effectuer un tri sur des critères qui se veulent le plus neutres et les plus scientifiques possibles, mais qui n'excluent jamais une part d'arbitraire.
Alors après cette cascade de sons, une exposition, le secret, le non-dit, c'est par réaction?
Bien sûr, parce que effectivement, on aime se donner l'illusion que les règles sont transparentes, les mêmes pour tout le monde, alors qu'en fait, il y a plein de petites combines, d'arrangements, de préférences, mais qui ne sont pas faciles à légitimer, qui relèvent du goût, simplement, qui relèvent des valeurs, de ce que les gens pensent être important, et que qui oriente en fait une partie de ce travail. Donc effectivement, on avait vraiment à cœur de traiter en fait ce qui n'apparaît pas dans les inventaires. Je prends l'exemple du patrimoine immatériel suisse. On a maintenant la liste définitive qui a été publiée. On se rend compte qu'en fait c'est une vision extrêmement particulière de la Suisse, des images paradigmatiques de cartes postales, de culture de l'arc alpin, les vaches, l'agriculture, des choses sans doute importantes par rapport à notre passé, mais qui excluent effectivement une grande partie de ce qu'est la Suisse aujourd'hui. Et donc il y a des champs de patrimoine vertigineux à explorer en permanence autour de soi. Ceux-là n'ont pas encore eu les honneurs, en fait, d'une patrimonialisation.
Donc le nom dit sera à l'honneur et fait son propre bruit au Maine d'ici
le 16 mai de cette année.
On y reviendra forcément dans Babylone. Merci Yann Lavigne.
Merci à vous
bientôt,
pour l'accueil. Bonne journée.
Bonne journée. Toute l'équipe de Babylone vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Babylone, c'est du lundi au jeudi. On vous donne rendez-vous de 9 à 10 en nouvelle diffusion le soir, 19h. Et si vous souhaitez télécharger cette émission, vous pouvez le faire sur rts.ch/Babylone ou encore nous retrouver sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous. Toute belle soirée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.
Et nous allons nous retrouver dans Jazz tout à l'heure à partir de 22h42 afin d'y explorer un album célèbre de Monsieur Herbie Hancock qui est paru en 1965. C'est le 5e album qu'il sortait à son nom. Il s'appelait Maiden Voyage. C'est un chef-d'œuvre dont la moitié des titres vont devenir des standards. C'est vous dire. Thank you. Herbie Hancock tout à l'heure dans Jazz, le fameux disque Made in Voyage et tout son rayonnement à partir de 22h42. Mais entre-temps, votre soirée ne fait que commencer sur Espace 2. Il est exactement 20h. Merci d'être avec nous.